7. Pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, réverbères, mouchettes, éteignoirs et des producteurs de suif, huile, résine, alcool et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage. À messieurs les membres de la Chambre des députés. Messieurs, vous êtes dans la bonne voie. Vous repoussez les théories abstraites. L'abondance, le bon marché vous touchent peu. Vous vous préoccupez surtout du sort du producteur. Vous le voulez affranchir de la concurrence extérieure, en un mot. Vous voulez réserver le marché national au travail national. Nous venons vous offrir une admirable occasion d'appliquer votre, comment dirons-nous, votre théorie. Non, rien n'est plus trompeur que la théorie. Votre doctrine, votre système, votre principe. Mais vous n'aimez pas les doctrines, vous avez horreur des systèmes. Et quant au principe, vous déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale. Nous dirons donc votre pratique. Votre pratique sans théorie et sans principe. Nous subissons l'intolérable concurrence d'un rival placé à ce qu'il paraît dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit, car aussitôt qu'il se montre, notre vente cesse, tous les consommateurs s'adressent à lui, et une branche d'industrie française dont les ramifications sont innombrables est tout à coup frappée de la stagnation la plus complète. Ce rival qui n'est autre que le soleil nous fait une guerre si acharnée que nous soupçonnons qu'il nous est suscité par la perfide Albion, bonne diplomatie, par le temps qui court, d'autant qu'il a pour cette île orgueilleuse des ménagements dont il se dispense envers nous. Nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toute fenêtre, lucarne, abat-jour, contrevent, volet, rideau, vasistas, œil de bœuf, store, en un mot de toute ouverture, trou, fente et fissure, par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons au préjudice des belles industries dont nous nous flattons d'avoir de tels pays, qui ne sauraient sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lutte si inégale. Veuillez, messieurs les députés, ne pas prendre notre demande pour une satire, et ne la repoussez pas, du moins, sans écouter les raisons que nous avons à faire valoir à l'appui. Et d'abord, si vous fermez autant que possible tout accès à la lumière naturelle, si vous créez ainsi le besoin de lumière artificielle, quelle est en France l'industrie qui, de proche en proche, ne sera pas encouragée? S'il se consomme plus de suif, il faudra plus de bœufs et de moutons. Et par suite, on verra se multiplier les prairies artificielles, la viande, la laine, le cuir, et surtout les engrais, cette base de toute richesse agricole. S'il se consomme plus d'huile, on verra s'étendre la culture du pavot, de l'olivier, du colza. Ces plantes riches et épuisantes viendront à propos mettre à profit cette fertilité que l'élevage des bestiaux aura communiquée à notre territoire. Nos landes se couvriront d'arbres résineux, de nombreux essaims d'abeilles recueilleront sur nos montagnes des trésors parfumés qui s'évaporent aujourd'hui sans utilité, comme les fleurs d'où ils émanent. Il n'est donc pas une branche d'agriculture qui ne prenne un grand développement. Il en est de même de la navigation. Des milliers de vaisseaux iront à la pêche de la baleine, et dans peu de temps, nous aurons une marine capable de soutenir l'honneur de la France et de répondre à la patriotique susceptibilité des pétitionnaires, sous-signés, marchands de chandelles, etc. Mais que dirons-nous de l'article de Paris? Voyez d'ici les dorures, les bronzes, les cristaux en chandeliers, en lampes, en lustres, en candélabres, briller dans de spacieux magasins, auprès desquels ceux d'aujourd'hui ne sont que des boutiques. Il n'est pas jusqu'au pauvre résigné au sommet de sa dune, ou au triste mineur au fond de sa noire galerie qui ne voit augmenter son salaire et son bien-être. Veuillez y réfléchir, messieurs, et vous resterez convaincus qu'il n'est peut-être pas un Français depuis l'opulent actionnaire d'Anzin, jusqu'au plus humble débitant d'allumettes dont le succès de notre demande n'améliore la condition. Nous prévoyons vos objections, messieurs, mais vous ne nous en opposerez pas une seule que vous n'alliez la ramasser dans les livres usés des partisans de la liberté commerciale. Nous osons vous mettre au défi de prononcer un mot contre nous qui ne se retourne à l'instant contre vous-même, et contre le principe qui dirige toute votre politique. Nous direz-vous que si nous gagnons à cette protection, la France n'y gagnera point, parce que le consommateur en fera les frais. Nous vous répondrons, vous n'avez plus le droit d'invoquer les intérêts du consommateur, quand il s'est trouvé aux prises avec le producteur. En toutes circonstances, vous l'avez sacrifié. Vous l'avez fait pour encourager le travail, pour accroître le domaine du travail. Par le même motif, vous devez le faire encore. Vous avez été vous-même au-devant de l'objection. Lorsqu'on vous disait « le consommateur est intéressé à la libre introduction du fer, de la houille, du sésame, du froment, des tissus ». Oui, disiez-vous, mais le producteur est intéressé à leur exclusion. Eh bien, si les consommateurs sont intéressés à l'admission de la lumière naturelle, les producteurs le sont à son interdiction. Mais disiez-vous encore, le producteur et le consommateur ne font qu'un. Si le fabricant gagne par la protection, il fera gagner l'agriculteur. Si l'agriculture prospère, elle ouvrira des débouchés aux fabriques. Eh bien, si vous nous conférez le monopole de l'éclairage pendant le jour, d'abord nous achèterons beaucoup de suif, de charbon, d'huile, de résine, de cire, d'alcool, d'argent, de fer, de bronze, de cristaux, pour alimenter notre industrie. Et de plus, nous et nos nombreux fournisseurs devenus riches, nous consommerons beaucoup et répandrons l'aisance dans toutes les branches du travail national. Direz-vous que la lumière du soleil est un don gratuit ? Et que repousser des dons gratuits, ce serait repousser la richesse même sous prétexte d'encourager les moyens de l'acquérir. Mais prenez garde que vous portez la mort dans le cœur de votre politique. Prenez garde que jusqu'ici, vous avez toujours repoussé le produit étranger parce qu'il se rapproche du don gratuit, et d'autant plus qu'il se rapproche du don gratuit. Pour obtempérer aux exigences des autres monopoleurs, vous n'aviez qu'un demi-motif. Pour accueillir notre demande, vous avez un motif complet. Et nous repousser précisément en vous fondant sur ce que nous sommes plus fondés que les autres, ce serait poser l'équation plus fois plus égale moins. En d'autres termes, ce serait entasser absurdité sur absurdité. Le travail et la nature concourent en proportions diverses selon les pays et les climats à la création d'un produit. La part qui met la nature est toujours gratuite, c'est la part du travail qui en fait la valeur SEP. Si une orange de Lisbonne se vend à moitié prix d'une orange de Paris, c'est qu'une chaleur naturelle est par conséquent gratuite, fait pour l'une ce que l'autre doit à une chaleur artificielle et partant coûteuse. Donc quand une orange nous arrive du Portugal, on peut dire qu'elle nous est donnée moitié gratuitement, moitié à titre onéreux, ou en d'autres termes à moitié prix relativement à celle de Paris. Or c'est précisément de cette demi-gratuité, pardon du mot, que vous arguez pour l'exclure. Vous dites comment le travail national pourrait-il soutenir la concurrence du travail étranger quand celui-là a tout à faire et que celui-ci n'a à accomplir que la moitié de la besogne, le soleil se chargeant du reste. Mais si la demi-gratuité vous détermine à repousser la concurrence, comment la gratuité entière vous porterait-elle à admettre la concurrence ? Vous n'êtes pas logicien ? Vous devez, repoussant la demi-gratuité comme nuisible à notre travail national, repousser a fortiori, et avec deux fois plus de zèle, la gratuité entière. Encore une fois, quand un produit, houille, fer, froment ou tissu nous vient du dehors, et que nous pouvons l'acquérir avec moins de travail que si nous le faisions nous-mêmes, la différence est un don gratuit qui nous est conféré. Ce don est plus ou moins considérable selon que la différence est plus ou moins grande. Il est du quart, de la moitié, des trois quarts de la valeur du produit si l'étranger ne nous demande que les trois quarts, la moitié, le quart du paiement. Il est aussi complet qu'il puisse l'être quand le donateur, comme fait le soleil pour la lumière, ne nous demande rien. La question, et nous la posons formellement, est de savoir si vous voulez pour la France le bénéfice de la consommation gratuite ou les prétendus avantages de la production onéreuse. Choisissez, mais soyez logique. Car tant que vous repousserez comme vous le faites la houille, le fer, le froment, les tissus étrangers, en proportion de ce que leur prix se rapproche de zéro, quelle inconséquence ne serait-ce pas d'admettre la lumière du soleil, dont le prix est à zéro pendant toute la journée ?